chronique de la Ligue des droits de l'homme de Laval.
Liberté, égalité, fraternité. La devise de la République, elle est belle, mais ô combien exigeante. Et il faut bien le reconnaître, nos amis révolutionnaires de 1789 ont mis la barre particulièrement haute. Depuis, chaque génération, chaque république conventionnelle, chaque gouvernement successif, mais aussi chaque association, chaque organisation syndicale, s'emploie à donner corps à cette devise pour que cette dernière ne reste pas un simple slogan vide de sens, mais prenne bien effet dans le quotidien de chacune et de chacun. L'enjeu est majeur, l'objectif, il faut bien le reconnaître, difficile à atteindre, toujours fragile, mais c'est bien là l'honneur d'un pays démocratique comme la France que de tendre vers un idéal. Je m'attarderai dans cette chronique particulièrement sur le deuxième terme de la devise « égalité ».
Égalité ou égalitarisme ?
Alors, l'idée d'égalité n'est en rien la volonté d'uniformisation d'un peuple pour que chacun ressemble et qu'aucune tête ne dépasse. Les exemples historiques d'ailleurs d'aller vers cette voie sont nombreux et ont tous dévié vers des régimes totalitaires ou des dictatures. Cette vision d'ailleurs s'appelle l'égalitarisme et se différencie de l'idée d'égalité voulue par les pères de la Révolution française et les philosophes de la siècle des Lumières. Cette notion d'égalité est d'ailleurs si importante qu'elle constitue la première phrase de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, je cite « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » On le voit, l'égalitarisme est donc rejeté car les distinctions sociales sont reconnues, mais non pas du fait de sa naissance comme dans l'Ancien Régime avec la noblesse, mais pour l'utilité que chacun et chacune peut apporter au service de la collectivité. L'article 1er de cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est donc une promesse, puisque dès la naissance, ils naissent libres et égaux, mais c'est aussi une exigence pour les dirigeants qui doivent mettre en œuvre des politiques pour que les individus demeurent libres et égaux.
Alors qu'en est-il aujourd'hui ?
Eh bien, plus prosaïquement, regardons comment cette notion d'égalité s'incarne dans un domaine précis comme celui de la fiscalité. La théorie fiscale permet d'identifier quatre grands principes. Le premier, le principe de l'égalité, défini dans l'article 34 de la Constitution. Les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions sont fixées par la loi et donc obligatoirement votées par le Parlement. Deuxièmement, le principe d'annualité, selon lequel le Parlement doit donner chaque année au gouvernement l'autorisation de percevoir l'impôt. Troisième principe, celui de la nécessité, selon lequel l'impôt est légitime, que pour autant il est indispensable pour couvrir les besoins. Et enfin, le dernier principe, peut-être le plus important, principe d'égalité, selon l'article 13 de la Constitution des droits de l'homme et du citoyen, la contribution commune doit être également répartie entre tous les citoyens en fonction de leurs facultés. À l'heure où les gouvernements successifs ont bien du mal à établir un budget au regard du déficit avéré, le Premier ministre serait bien inspiré d'avoir ces quatre principes en tête et en particulier celui d'égalité.
Ce principe d'égalité devant l'impôt ne serait donc pas appliqué alors ?
Eh bien écoutez, une étude de l'Institut des partis politiques, IPP, Institut officiel indépendant reconnu par l'État. Eh bien, cet institut a publié en juin 2023 une étude qui démontre que le taux effectif d'imposition des 0,1% des plus fortunés diminue à mesure que l'on grimpe dans l'échelle des revenus. Ainsi, les 0,1% les plus riches sont imposés à 46%, tandis que les 0,002% des ultra-riches, des milliardaires, ne sont eux imposés qu'à hauteur de 26%.
Et comment est-ce que c'est possible alors ?
Eh bien, les ultra-riches paient près de deux fois moins d'impôts que tout le monde, notamment parce que leurs revenus se composent majoritairement de bénéfices de leurs sociétés non distribuées et parce que certains recourent à des pratiques d'optimisation fiscale, bien souvent préconisées par des cabinets spécialisés, via des holdings familiales, ce que dénonce d'ailleurs Gabriel Zucman. Pour corriger cette inégalité, Gabriel Zucman propose la mise en place d'une taxe pour les 1800 ménages, c'est pas énormément de monde, 1800 ménages dont la fortune dépasse 100 millions d'euros. Ce sera un impôt différentiel pour que chaque famille règle un minimum 2% de ses revenus. Pour exemple, un ménage qui a un patrimoine de 1 milliard d'euros devrait s'acquitter au minimum de 20 millions d'euros. On voit bien qu'il s'agit là de chiffres qui dépassent largement le commun des mortels, et ce ne serait d'ailleurs que justice.
Mais certains dénoncent le fait que cette taxe toucherait le patrimoine productif et aurait donc des effets néfastes pour l'économie du pays.
Alors, qu'il faille regarder les incidences qui pourraient être négatives pour l'économie et donc à terme pour l'emploi, c'est complètement justifié. Mais là, nous sommes dans de la technique. Je ne suis pour ma part ni économiste ni fiscaliste pour répondre à cette question. C'est justement d'ailleurs aux techniciens, dont c'est le métier, d'apporter des propositions pour coller à ce principe d'égalité fiscale inscrite dans la Constitution et de corriger, si besoin, les anomalies, sources d'inégalités et d'incompréhension de la plupart de nos concitoyens. Ainsi, les opposants à toute nouvelle taxe sur les patrimoines les plus élevés ne peuvent se réfugier derrière des arguments techniques pour piétiner un principe fondateur de notre République qu'est l'égalité de chacun devant la loi. L'impôt constitue un pilier central du financement des services publics et de la gouvernance économique. C'est par l'impôt, grâce à l'impôt, que chacun peut bénéficier de services tels que la santé, l'éducation, l'aménagement du territoire. C'est parce que chacun peut et doit contribuer en fonction de ses revenus ou fortunes de façon équitable et juste à l'effort collectif que nous faisons société. Le principe d'égalité s'avère alors essentiel pour le vivre ensemble. Ce sont ces sentiments de justice et d'égalité qui mobilisent aujourd'hui l'ensemble du mouvement syndical et nombreux de travailleurs. Ces sentiments, traduits en revendications, doivent absolument être entendus par les dirigeants de notre pays. C'est pourquoi la Ligue des droits de l'homme a soutenu la mobilisation du 18 septembre dernier et appelle à rejoindre les cortèges syndicaux du 2 octobre prochain.